RCF. Monseigneur François Durand, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir pour notre émission désormais habituelle. On fait un petit point de temps en temps, tous les deux mois, on se rencontre effectivement pour voir un petit peu cette actualité. Et là, nous sommes en plein autour de cette période du carême qui débute. Donc, il y a beaucoup de choses. On va peut-être revenir un tout petit peu en arrière puisque il y a quelques semaines, vous avez pu rencontrer des adultes en demande de sacrement. L'occasion de nous expliquer pourquoi vous rencontrez ces adultes et puis ce qu'est un sacrement peut-être.
Oui, en effet, nous avons vécu un beau week-end, c'était au début du mois de février, avec, on était 160, il y avait une cinquantaine d'adultes qui demandent les sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, une quarantaine qui préparent leur confirmation, qui avaient été baptisés enfants ou jeunes. Et puis beaucoup d'autres personnes aussi qui les accompagnent justement dans ce parcours, dans ce chemin. Donc un sacrement, c'est avant tout un don de Dieu, donc un cadeau de Dieu, on pourrait dire, une grâce de Dieu. Ça, c'est la première dimension d'un sacrement, c'est Dieu qui agit, Dieu qui se donne, voilà. Mais c'est aussi une réalité visible. Par exemple, quand quelqu'un est baptisé, on voit de l'eau qui coule sur son front, on va sentir le Saint-Crème, l'huile sainte qui va parfumer son front, on va voir le vêtement blanc, le cierge allumé. Et c'est donc une réalité visible, sensible, qui témoigne pour une réalité invisible. Et cette réalité invisible, c'est que Dieu choisit cette personne pour faire d'elle son fils, sa fille bien-aimée. La personne est vraiment associée au Christ dans sa Pâque, dans sa mort et sa résurrection. Donc c'est quelque chose de réel qui se produit, qui se passe de manière invisible. Et on parle parfois d'un mystère, mais le mystère, c'est pas une énigme. Le mystère, c'est un mot grec qui est traduit justement par le mot latin sacramentum qui a donné sacrement. Donc il y a ce mystère, l'invisible, mais qui, quelque part, qui tangente notre monde, notre histoire, notre réalité concrète, notre humanité, par des signes visibles et par des paroles. Voilà, ça commande donc à la fois un don de Dieu et puis une réalité visible qui témoigne pour une réalité invisible.
Et alors, le sacrement, du coup, les différents sacrements dans l'Église, combien il y en a? Est-ce qu'il y en a qui sont, entre guillemets, plus importants que d'autres?
Alors, nous disons déjà que l'Église, le corps de l'Église, l'Église avec un grand E, c'est en quelque sorte le sacrement de cette union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc une réalité visible qui témoigne de cette alliance invisible entre Dieu et toute l'humanité et du rassemblement de toute la famille humaine. Nous avons l'habitude de présenter les sacrements dans un ordre avec sept sacrements. Il y a d'abord ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation d'un chrétien, la porte d'entrée de tous les sacrements, donc le baptême, mais aussi la confirmation qui est vraiment être renouvelé dans l'Esprit Saint et découvrir plus largement la dimension de l'Église. Et puis l'Eucharistie, donc communier au corps du Christ, ce qu'on vit à chaque messe. Et des personnes qui reçoivent l'Eucharistie pour la première fois. Donc ça, ce sont les trois sacrements qui font les chrétiens, pour dire les sacrements de base. C'est important, c'est vraiment le Seigneur qui donne, qui équipe avec ce qu'il faut, une personne qui librement accueille la grâce de Dieu, ce que Dieu veut pour elle, avec elle. Ensuite, il y a les sacrements qu'on appelle de guérison. Donc celui qui est le plus connu, c'est le sacrement du pardon, qu'on appelle aussi le sacrement de pénitence et de réconciliation. Un sacrement de guérison, puisque le prêtre qui accueille la personne qui se confesse, le pénitent, joue en quelque sorte un peu le rôle d'un médecin. Il est là pour écouter d'abord, pour éventuellement donner un conseil. Permettre à la personne d'avoir un regard juste sur ce qui s'est passé, sur le péché qu'elle vient de déposer, que ça soit pas ni une exagération dans un sens, ni une relativisation dans l'autre. Voilà, poser une parole juste, faire le lien avec la parole de Dieu, et vraiment demander au Seigneur de venir réconcilier, guérir, réparer. Donc c'est quelque chose d'assez fort, d'assez beau. C'est vrai que les prêtres, nous sommes les témoins de cette action de Dieu dans ce sacrement du pardon. Puis le deuxième sacrement de guérison, c'est le sacrement de l'onction des malades. qui n'est pas réservé aux mourants. C'est un sacrement qu'on peut recevoir quand on est malade de manière assez sérieuse. Ça peut être une maladie chronique ou à l'approche d'une opération pour laquelle on est inquiète, ou vraiment aussi le grand âge ou voilà, d'autres situations. Et c'est vraiment dans la lettre de Jacques qu'il est dit, bah, quand quelqu'un est malade, on fera appel au prêtre, il fera sur lui une onction d'huile et la personne malade s'en trouvera mieux. C'est un sacrement de joie. C'est vrai, quand on parle sacrement des malades, on pourra avoir à l'idée quelque chose de triste, de difficile. Mais c'est vraiment un sacrement avec beaucoup de joie et où on expérimente l'action de Dieu concrète qui guérit, qui relève. C'est pas toujours une guérison physique, mais il y a vraiment une paix intérieure qui est donnée.
On a peut-être cette image parce qu'on entend parler de dernière onction, des fois.
Oui, il y a ce mot de l'extrême onction. Alors évidemment, c'est toujours d'actualité de célébrer l'onction des malades, mais aussi le viatique, c'est-à-dire la dernière communion pour une personne qui est en train de vivre ses derniers instants. Donc ça, c'est toujours une réalité qu'il est possible de vivre. Mais l'onction des malades, le sacrement de l'onction des malades, c'est beaucoup plus large. C'est pas réservé au moment de la mort. Et surtout, il ne faut pas attendre la dernière extrémité pour solliciter la paroisse, l'aumônerie de l'hôpital ou des visiteurs de malades pour qu'un prêtre puisse se déplacer et célébrer, soit avec la personne toute seule ou avec son entourage, ce sacrement. Voilà, puis il y a deux autres sacrements. C'est les sacrements plutôt qui correspondent à des choix de vie, d'engagement. Donc le sacrement du mariage, évidemment, où un homme et une femme s'engagent dans cette union qui est signe aussi de l'alliance de Dieu avec toute l'humanité. Et puis le sacrement de l'ordre pour les évêques, les prêtres et les diacres, qui est un sacrement au service de toute la vie de l'Église.
Merci pour ces explications. Et donc vous allez retrouver finalement certains de ces adultes que vous avez rencontrés lors de la messe chrismale. Et il y aura peut-être évidemment des temps un peu avant. Et je crois qu'il y en aura un ce dimanche 9 mars.
Oui, ce dimanche 9 mars, qui est le premier dimanche de carême, nous célébrons l'appel décisif. Donc tous les adultes qui seront confirmés la nuit de Pâques, ils sont 85 cette année dans la Drôme, c'est presque deux fois plus que l'année dernière. Tous ces adultes vont donner leur nom, d'une certaine manière, ils accomplissent un acte de liberté. C'est librement qu'ils se proposent, qu'ils apportent leur nom, qui va être inscrit sur les registres de l'Église. Et l'évêque, au nom du Seigneur, au nom de toute l'Église, après avoir consulté les personnes qui ont accompagné ces adultes vers le baptême, pendant parfois 2 ans, enfin c'est un chemin d'approfondissement de l'Évangile, de prière, ils donnent leur nom, l'évêque les appelle, et toute la communauté s'engage à prier pour eux, à les accompagner dans ce carême jusqu'au moment où ils vont recevoir les sacrements. Donc le carême est d'abord fait pour les catéchumènes, il a été créé pour ça. On pense bien sûr à un temps de pénitence, de prière, etc. Mais la première raison pour laquelle le carême a été créé, c'est pour que les catéchumènes puissent se préparer à leur baptême à Pâques, à vraiment devenir pleinement membres du corps du Christ, fils et filles de Dieu.
Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin, on se donne du courage. Voilà qu'on partage ce petit repas. Comme à chaque fois, ce n'est rien qu'un peu de mie, du blé, de l'épine. Mais ça a suffi pour changer nos vies. On n'oubliera pas tous ceux qui ont un peu faim, tous les miséreux, ceux qui n'ont plus rien, comme autour d'un feu de bois. On s'est retrouvé, ce moment de joie nous a réchauffé. De la braise viendra la flamme jusque dans nos âmes. Et pour être heureux, il nous faut très peu. Ce n'est pas un grand festin, oui, mais c'est bien mieux quand il y en a pour un, il y en a pour deux. S'il nous reste s'il vient de loin, on se donne du courage.
bien. RCF, rendez-vous avec Monseigneur François Durand, évêque du diocèse de Valence.
Toujours dans cette émission sur RCF, en compagnie de Monseigneur François Durand, nous sommes en train de parler de l'actualité. Effectivement, cette actualité, eh bien, c'est ce carême. Vous venez de dire que les personnes, les 85 catéchumènes qui allaient donc demander le baptême lors de la messe chrismale et qui se préparent, vont vivre ce carême comme un temps de préparation. Le temps de carême, comment est-ce qu'il doit être perçu? C'est vrai que, on va dire que dans l'image populaire, c'est pas forcément une période très gaie, le carême. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des clés pour vivre ce carême? Comment vous, personnellement, vous vivez ce carême? Et puis ce carême, particulièrement dans une année jubilaire, une année sainte, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut être attentif?
Alors le carême, les trois dimensions traditionnelles, c'est la prière, le jeûne et le partage. Donc vraiment privilégier cette relation au Seigneur dans la prière quotidienne. Et c'est vrai que le temps du carême est un temps où personnellement, moi j'aime bien lire davantage, méditer encore davantage la parole de Dieu. Ce soit une nourriture qui m'imprègne. Et j'invite tous ceux qu'ils peuvent à prendre plus de temps pour lire la parole de Dieu, pourquoi pas se retrouver avec un groupe, quelques frères et sœurs pour la partager et nous en nourrir davantage. C'est aussi ce temps du jeûne où on accepte de laisser certaines choses. Alors ça peut être les réseaux sociaux ou d'autres activités qui nous prennent beaucoup de temps, justement pour prendre plus de temps pour la prière ou pour lire ou pour être attentif à des proches. Et puis c'est le temps du partage, alors partage très concret, hein, matériel, où on va collecter de l'argent ou être attentif à des plus démunis. Il y a beaucoup d'actions, hein, avec le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, Hiver solidaire ou autres, qui permettent d'être en relation, vraiment de rencontrer ceux qui sont davantage dans des situations de précarité ou de difficulté. Mais cette année, c'est vrai, nous sommes dans le jubilé, l'année sainte de l'espérance, et en plus dans un contexte général qui est assez morose, aussi bien dans le contexte international, avec beaucoup de guerres, de tensions, de conflits, de divisions, d'outrances, que dans notre pays, avec une question économique qui devient de plus en plus prégnante et des personnes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Je crois que dans ce contexte-là, les baptisés, les catholiques en particulier, ont vraiment à être des porteurs d'espérance, des porteurs de lumière. Alors l'espérance, c'est pas un lot de consolation en disant écoutez, c'est la galère aujourd'hui, ça ira mieux demain, voire après notre mort. Non, l'espérance, c'est reconnaître que nous sommes déjà sauvés par le Christ, c'est quelque chose qui est acquis. Et finalement, c'est de cet avenir vers lequel nous allons que nous pouvons trouver l'énergie, la force pour aujourd'hui agir de manière responsable en luttant contre les injustices. C'est ça l'espérance chrétienne. C'est pas un vague espoir. L'espoir, c'est à partir de notre réalité, on espère quelque chose, puis ça se produit pas. Un espoir, il peut être déçu. Alors que l'espérance, non, nous la recevons de l'avenir et elle vient transformer concrètement notre quotidien. Et voilà, je fais cet appel pour que tous les catholiques, notamment du diocèse, puissent ne pas renoncer à être des porteurs d'espérance et à ne pas être sans arrêt à relayer la sinistrose, les mauvaises nouvelles, mais à s'engager, à se retrousser les manches pour que ça change et pour soutenir ceux qui sont davantage en difficulté.
Prière, jeûne et partage. Je reviens sur le mot jeûne. Vous nous avez dit que le jeûne, c'était pas donc forcément de se priver du dessert à la fin du repas, mais peut-être de choses qui nous prend et qui nous happe beaucoup de temps au quotidien, comme les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on peut vivre un carême différemment de ce qu'on peut penser ancré sur la nourriture.
Le jeûne est un moyen, mais l'objectif, c'est de faire de la place pour Dieu et pour les autres. Voilà, vraiment de libérer de l'espace.
Alors on revient quelques semaines en arrière aussi, puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer dans l'église apostolique arménienne ce que l'on appelle le primat.
Oui, sur Valence, donc le dimanche 9 février est venu le primat de l'église apostolique arménienne pour une célébration pour le prêtre arménien ici, arménien apostolique à Valence, qui est devenu archiprêtre. Alors c'est vrai que pour moi c'est une découverte, hein, de rencontrer. J'avais déjà rencontré quelques Arméniens, mais pas de manière aussi importante. Ici, le diocèse, nous avons des liens très étroits avec la communauté arménienne, qui est fortement présente sur toute l'agglomération de Valence, notamment parce que nous avons accepté d'accompagner l'enseignement catholique du diocèse de Valence, la création progressive d'une école arménienne avec plusieurs classes, puis une école, nous l'espérons, qui maintenant va pouvoir être reconnue dans un contrat d'association avec l'État pour qu'elle puisse encore davantage voler de ses propres ailes. Comme évêque, je suis très heureux de trouver cette initiative et de la soutenir fortement, parce que nous savons combien les Arméniens ont été persécutés, le mot est faible, avec un véritable génocide à plusieurs périodes de leur histoire. Et ils font partie de ces premiers chrétiens, des origines vraiment de la foi chrétienne. Et nous ne pouvons pas laisser disparaître ces rites arméniens, cette manière de prier, toute cette histoire. C'est essentiel que ça puisse continuer, cette culture. Et nous avons un rôle, puisque c'est beaucoup plus difficile. On le voit notamment avec les Arméniens d'Alep, quoi. Beaucoup sont partis. De pouvoir ici, même si c'est pas l'idéal, qu'ils puissent retrouver des éléments importants de leur culture, de leur pratique religieuse, et nous avons à le privilégier et à ne pas vouloir les latiniser, les catholiciser, les occidentaliser, voilà, parce que leur culture, leur réalité doit vraiment continuer et nous en avons besoin. C'est nos sources, c'est nos origines. Je suis très heureux aussi de pouvoir rencontrer régulièrement des frères et sœurs arméniens. J'ai pu aussi visiter le centre du patrimoine arménien à Valence, j'invite chacun à pouvoir le faire. C'est un lieu extrêmement bien fait, très pédagogique et puis très poignant aussi, qui nous permet d'entrer avec notre cœur, avec nos entrailles dans l'histoire de ce peuple, de ce beau peuple.
Alors vous disiez que c'était nos origines et en même temps, par exemple, la date de Pâques où ne tombe pas exactement chaque année aux mêmes dates pour l'Église apostolique arménienne. Pourquoi ?
Alors c'est extrêmement compliqué à expliquer, j'en serais incapable. C'est des histoires de calendrier. Alors c'est avec les orthodoxes, voilà, orthodoxes et catholiques, on n'a pas les mêmes dates parce que certains ont suivi le calendrier julien, d'autres le calendrier grégorien. Toujours est-il que cette année, en 2025, la date de Pâques est commune. Voilà. C'est un petit peu providentiel. Nous fêtons les 1700 ans du concile de Nicée, ce concile où la foi que nous proclamons à chaque messe le dimanche, qui nous est commune avec nos frères arméniens, protestants, orthodoxes, voilà, a été définie. En plus, il y avait l'évêque de Die de l'époque, qui était le seul représentant de la Gaule à être présent là-bas aujourd'hui en Turquie, donc à Nicée pour ce concile. Donc c'est heureux que cette année, il y ait cette coïncidence providentielle, que la date de Pâques soit commune.
C'est la fin d'une longue journée. Sur le chemin, je regarde un instant vers le passé, ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée, j'ai aimé rencontrer toutes ces vies. J'ai aimé traverser tous ces pays. J'aimais observer les jours passer, le soleil se coucher puis se lever. J'aimais voir la pluie tomber, voir les feuilles s'envoler. J'ai aimé tous ces instants. J'ai aimé chacune des mains que j'ai serrées tendrement. J'ai aimé chaque sourire que j'ai croisé. J'ai aimé marcher avec tous ces petits hommes à mes côtés. J'ai aimé tous ces amis. Aussi incroyable que ça puisse vous paraître, sachez aussi que j'ai aimé mes ennemis. J'ai aimé ceux qui m'ont trahi. J'ai aimé chaque être vivant que j'ai croisé. J'ai aimé cette prostituée, cet handicapé, ces orgueilleux et puis tous ces vieux. J'ai aimé ces petits-enfants. J'ai aimé ces lépreux, même avec ces plaies pleines de sang. J'ai aimé les exclus, ceux que l'on n'aimait plus, tous ces malades abattus, tous ceux qui n'y croyaient plus. J'ai aimé ceux qui m'ont insulté, ceux qui m'ont détesté, ceux qui m'ont aimé, ceux qui m'ont piétiné. Pas d'un amour intéressé, j'ai aimé sans me soucier du prix. J'ai aimé et mon amour me pousse à en perdre ma vie. C'est la fin d'une longue journée. Sur ce chemin, je regarde un instant vers le passé, ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée, je peux pas empêcher mes larmes de couler. En regardant toute la haine qui sort du cœur de l'humanité, j'ai détesté chacun des mensonges que j'ai entendus. J'ai détesté voir des êtres humains vendus. J'ai détesté chacune des paroles blessantes qui se sont lancées, parce que je sais tous les ravages que ça fait sur l'identité, parce que je sais qu'ils n'ont pas été créés pour s'entretuer. J'ai détesté les voir seuls se débattre contre la souffrance, j'ai détesté les voir sans espérance. Mais j'ai aimé chacun comme il était. Je ne pouvais pas les laisser avec ce désespoir qui les accablait. Je ne pouvais pas les laisser. Je les ai aimés, pas d'un amour intéressé. J'ai aimé sans me soucier du prix. J'ai aimé et mon amour me pousse à en perdre ma vie. C'est la fin d'une longue journée. Sur ce chemin, je regarde un instant vers le passé. Ça fait déjà quelques années. Quelques années que je suis sur cette terre desséchée. C'est la fin d'une longue journée. C'est la dernière fois que je foule cette terre desséchée. La colline est devant moi. Il ne me reste que quelques pas, j'ai un lourd bagage sur mon dos. Il est douloureux, mais c'est mon cadeau, alors je continue de le porter. Même si mes larmes doivent couler, même si mes mains doivent être clouées, même si je dois m'humilier, même si mon cœur doit s'arrêter. Je les vois s'agiter, en quête de sens et de vérité, ne trouvant jamais la liberté, emprisonnés par la culpabilité, face à leurs regrets, face à leurs actes manqués, voués à leur sort avec comme seul horizon la mort. C'est la fin d'une longue journée, c'est la dernière fois que je foule cette terre desséchée. La colline est devant moi, il ne me reste que quelques pas, j'ai un lourd bagage sur mon dos. Il est douloureux, mais c'est mon cadeau, alors je continue de le porter, même si mes larmes doivent couler, même si mes mains doivent être clouées, même si je dois m'humilier, même si mon cœur doit s'arrêter. C'est la fin d'une longue journée. Mon cœur s'est arrêté. Une nouvelle journée vient de commencer. Mon cœur s'est remis à palpiter, j'ai créé cette nouvelle journée. Plus de mort, mais une vie pour l'éternité, pour ceux qui choisissent de traverser le pont que j'ai créé. Sur ce pont j'ai marqué, sur ce pont j'ai gravé le mot pardonner. Une nouvelle journée vient de commencer, je ne regarde plus le passé.
RCF, rendez-vous avec Monseigneur François Durand, évêque du diocèse de Valence.
Toujours dans cette émission sur RCF en compagnie de Monseigneur François Durand, évêque du diocèse de Valence. Dans cette dernière partie, on va parler un petit peu aussi des visites pastorales que vous avez effectuées. On est en plein dans une semaine de visites pastorales aussi. Et puis aussi un peu des jeûnes, puisque le jubilé des jeunes et puisque le pèlerinage du Puy se profile et se dessine.
Oui, j'ai vécu déjà 5 visites pastorales dans les unités pastorales du diocèse. La dernière, c'est pour la romanaise, qui elle a lieu ces jours-ci, hein, du 6 au 9 mars. Dans ces visites pastorales, il y a de très très belles rencontres. Je rencontre bien sûr les acteurs des paroisses, des communautés chrétiennes, mais aussi d'autres personnes. Je pense notamment à des agriculteurs dans le sud du diocèse, dans le Nyoncé, plusieurs qui n'étaient pas forcément catholiques, mais qui ont pu exprimer leur réalité, être écoutés, leurs difficultés. C'était un moment extrêmement riche, d'une grande densité humaine. Et moi, j'ai été beaucoup touché par cette rencontre. Et j'ai dit, on ne peut pas, comme chrétien, rester insensible à ce que vivent ces personnes en travaillant beaucoup, avec une forte passion et en même temps de grosses angoisses par rapport à la suite de leur activité et même de leur propre famille. D'autres rencontres, je pense aux avocats. On a rencontré sur Valence tout un groupe d'avocats avec qui nous avons beaucoup discuté, notamment sur la justice restaurative, le rôle de médiateur de justice. C'était un échange extrêmement riche. Je pense aussi au président du VRDR, donc toute la dimension sportive autour du rugby. Je prie, j'espère que notre équipe va va gagner davantage. Mais c'est à voir dans la...
Pardon, vous étiez déjà sensible au rugby avant d'arriver ici ?
Pas vraiment. Non, c'était en Lozère, il y avait du rugby bien sûr, mais j'étais plutôt sur le volley.
Et les prières ont fait gagner un petit peu ou pas ?
Ben, les prières, elles sont toujours écoutées, toujours exaucées. Donc là, il faut que je redouble de prières. Mais ce que j'ai compris, c'est tout un travail de fond qui est initié. J'ai été assez édifié par ça, avec autour de notre équipe du VRDR, ben, toute une cohésion du territoire qui se joue, et la formation aussi pour des jeunes, enfin comment on rejoint à travers le rugby certaines populations, certains groupes d'enfants, de jeunes.
On a dit qu'on parlerait aussi un petit peu des jeunes, avec le jubilé des jeunes pour cette année.
Alors je me dis que je suis pas encore trop vieux, et donc je m'inscris à tout ce qui concerne les jeunes. Donc nous allons vivre le Pélé du Puy, qui est un Pélé pour les étudiants et jeunes professionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a lieu le week-end des Rameaux, le 12-13 avril prochain. Donc il est temps de s'inscrire, n'hésitez pas à demander des informations au diocèse. C'est un temps très très riche. En général, il y a 800 à 1000 jeunes. 18-30 ans à peu près, avec une marche, un pèlerinage, nous convergeons vers le puits, et puis des soirées d'enseignement, de témoignages, bien sûr des célébrations, des messes. Et c'est un temps très important pour aussi, des fois, pour des jeunes, chercher un petit peu que faire de leur vie au niveau vocationnel, voilà, dans quoi ils peuvent s'engager pour mettre en accord leur vie et leur foi de chrétien. C'est un temps de ressourcement où on se retrouve aussi à plusieurs. Et donc, vraiment, j'encourage ceux qui le peuvent, qui ont 18 ans et plus, à participer à ce pèlerinage au puits. Et nous aurons à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, à l'invitation du pape, le Jubilé des jeunes à Rome. J'y serai présent aussi. Il y en a déjà un bon nombre qui sont inscrits. C'est encore temps de s'inscrire, et il ne faut pas tarder, pour vivre ce jubilé pèlerin d'espérance avec des jeunes du monde entier. Je pense qu'il y en aura à peu près 2 millions à Rome avec le pape pendant 6 jours. Voilà, ce sera un moment très important. Et puis, je vais rencontrer beaucoup de jeunes dans les lycées, les collèges actuellement pour des échanges, pour quelques enseignements, mais aussi tous ceux qui vont recevoir prochainement le sacrement de la confirmation. C'est extrêmement important que ce lien avec ces générations pleines de vie, pleines d'enthousiasme et de foi, qui sont exigeantes aussi avec elles-mêmes et qui ne veulent pas croire n'importe comment, qui veulent vraiment s'engager sérieusement, que je puisse les connaître, les apprécier. Et c'est vrai que maintenant, on a commencé à créer quelques liens avec les uns et les autres.
Je reviens un tout petit peu sur les jeunes qui vont partir à Rome. Quelle est la procédure? Si un jeune nous entend et dit, tiens, ben moi, j'aimerais bien y aller, est-ce que tous les jeunes sont les bienvenus? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont déjà en paroisse? Comment ça se passe?
Alors, tous les jeunes sont les bienvenus s'ils sont majeurs. Voilà, c'est pour les majeurs. Donc, il faut être majeur en juillet 2025. Et pour vous inscrire, le mieux, c'est d'aller sur le site internet du diocèse et vous trouvez facilement le lien, les renseignements pour l'inscription.
Pour terminer cette émission 2025, parce qu'on est encore un petit peu dans le premier trimestre, donc comment vous voyez cette année 2025 dans le contexte dans lequel nous sommes ?
Pour moi, cette année, elle est importante puisque c'est l'année où nous élaborons des priorités pour le diocèse pour les années à venir. Donc des priorités que j'annoncerai le 4 octobre pour la fête de notre saint patron pour la Saint-Apollinaire. Ce sera un samedi. Donc voilà, c'est vraiment une année pour moi de fondation. J'ai commencé à bien parcourir, découvrir le diocèse, rencontrer les personnes. Et là, il s'agit de donner un cap. Je reste fidèle, moi, à ma devise, pris d'une prière de Jésus, bien sûr, qu'il soit un pour que le monde croit. Une des priorités qui déjà se dégage, c'est vraiment comment tous ces adultes qui reçoivent le baptême, la confirmation, qui viennent vers l'Église, tous ces jeunes aussi lycéens, comment ils peuvent prendre toute leur place et toute leur part dans les communautés chrétiennes en participant à les renouveler. Donc là, ça demande aussi un travail, une conversion des mentalités de chaque paroissien, chaque paroissienne, pour que non seulement nous les accueillons, mais que nous acceptions de travailler avec eux, parce que je suis convaincu que l'Esprit-Saint nous dit quelque chose à travers leur présence. Et puis c'est l'année vraiment jubilaire, l'année de l'espérance, donc nous avons beaucoup d'interventions, de conférences autour de l'espérance, ce que c'est l'espérance chrétienne, comment concrètement elle s'incarne, et je souhaite vraiment que nous soyons tous ensemble et pour le service du monde, de la population telle qu'elle est aujourd'hui, des acteurs d'espérance et donc de dialogue, de liens plus fraternels les uns avec les autres. C'est essentiel que les chrétiens soient au rendez-vous de cela.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Et bon carême.